Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. De nouvelles lignes. Un atelier spécialisé qui fabrique en détaché une villa en entier. Elle est livrée sur le chantier, il y a juste à faire le montage. Livraison de murs, toit, tout, sanitaire, tout, tout y est. La villa en entier. Gilbert va voir aussi dans les environs des chantiers, mais des chantiers où il n'y a rien de spécial dedans. On lui montre des chantiers, des maisons à construire, nouvelles maisons avec les meilleurs ouvriers. Bien entendu, les chantiers où il n'y a rien à redire. On lui montre aussi le plan des villes à rénover en maquette. Et les plans de zone pour reloger les gens. Tout ça l'intéresse beaucoup, mais en dehors du travail, il en redevient lui-même. Gilbert n'a pas envie de passer toute sa vie à s'occuper de toutes ces choses, parce qu'il y a beaucoup trop et qu'en plus, ça prend trop de temps. Ce serait une vie d'esclave. Et en plus, il est responsable de tant de choses qu'on ne connaît pas. Il se dit que son père a la clinique Jeune Touriquin et qu'il n'est même pas médecin. Il y a aussi une usine de produits diététiques sans rien y connaître. Et s'il arrive quelque chose à ces entreprises, c'est lui le responsable et personne d'autre. Responsable sans rien y connaître et prendre des décisions sans rien savoir, juste en faisant confiance à des soi-disant experts qui, eux, expertisent que le rendement est les rentrées d'argent. Non, Gilbert ne veut pas passer sa vie à s'occuper de tout ça. Il aide son père et c'est tout. Mais plus tard, il veut vivre, faire ce qui lui plaît. Mais Malheureusement, quelque chose lui dit que dans la vie, on ne fait jamais ce que l'on veut. Et que la vie, c'est-à-dire les hommes, la société, vous pousse à faire ce qu'ils veulent. Mais il se battra. Et s'il le faut, il disparaîtra avec Nathalie. Il ira dans un endroit perdu où personne ne saura où ils sont. Lorsqu'il est au siège, le personnel lui lance des sourires. Ils sont d'une politesse extrême avec lui. Judith lui fait apporter le café, lui a même donné une secrétaire, une belle jeune fille blonde dans les 22 ans, très belle et en tailleur rouge. Tout le monde est heureux de le voir chez eux. Harold est d'une politesse et d'une gentillesse extrême. Il veut faire oublier quelques petites familiarités qu'il a eues avec lui. Son père aussi est gentil. Il parle calmement et est très poli avec lui. Il demande, après les visites de chantier à l'usine, de lui lire le dossier et de marquer ce qu'il en pense. Comme il ne connaît pas grand-chose, il regarde surtout les cités urbaines, les expulsions, le relogement, le plan des logements. Il marque les délais plus longs pour les expulsions, les plans des logements. Il demande des logements plus faciles à vivre et à entretenir, des chambres plus grandes. Il refait des plans. Après avoir redonné le dossier à son père, le père le fait relire au service de recherche qui approuve ou non l'avis de Gilbert. Gilbert, lui, ne sait pas ce qu'il faut choisir. C'est son père qui doit trancher en dernier. Fin de semaine, il revoit Nathalie qui s'est remise de son histoire avec Eric. Passe en fin de semaine, aller à la campagne. La mère de Nathalie voit que sa fille revoit Gilbert, elle est furieuse. Je me demande ce que tu lui trouves. Nathalie lui dit. Et moi, je me demande ce que tu lui reproches. La mère lui dit. C'est bien simple, c'est un franc blanc qui nous a pris ce qui nous appartenait. Nathalie lui dit, une famille était dans la construction. Sa mère le regarde avec dédain et lui dit, nous sommes pas des maçons. Nathalie lui demande, et vous étiez quoi? Sa mère lui dit, nous étions dans les affaires, les vrais. Nathalie lui dit, les francs blancs. Eux aussi. Un soir, Julien revient du cinéma. Il rentre chez lui à pied. La nuit est douce, il y a peu de monde dans les rues. Il marche les mains dans les poches, tranquille. Ce soir, Julien veut se sentir bien. Il se dit qu'il est jeune, pas mal de sa personne, et même beau. Il a de l'argent, un bel appartement, il est libre. Ne lui manque rien. Si bien sûr, il manque quelque chose, quelqu'un à aimer. Le peu de jeunes filles qu'il a aimées, ça n'a pas été ça. Elles ne l'ont pas vraiment aimé. Pourquoi lui n'a-t-il pas de petite amie? Il y en a qui sont moins riches, moins beaux, moins jeunes, et qui en ont. Peut-être est-ce parce que Julien sort peu et qu'il a un côté timide. Et puis son côté élégant, distingué, n'était pas les filles. Les filles aiment le barbare, la brute, l'inculte. Il se dit, oui, mais si ça avait été ça, Gilbert, lui aussi, n'en aurait pas de petit ami. Et pourtant, il a Nathalie. Oui, mais Nathalie est étrange. Elle n'est pas comme les autres. Et en plus, elle a des secrets. Plus d'une fois, il s'est aperçu qu'elle cachait quelque chose. Ses rendez-vous avec eux, dans cette vieille maison, ce jeune homme qui sortait avec elle et dont on n'a jamais su qui il était, et cette vieille femme dans cette maison délabrée. Puis chaque fois que Gilbert a eu quelque chose, elle était dans l'affaire, comme soi-disant témoin ou autre. Et puis Nathalie, d'où vient-elle? D'où vient sa famille? On ne sait rien d'eux. Alors, Gilbert a une amie, mais elle est étrange et pas très sûre. D'ailleurs, c'est elle qui a présenté la sienne, qui était étrange et jalouse, et qui a disparu sans rien dire. Il se dit, je suis sûr qu'elle doit savoir des tas de choses et qu'elle ne dit rien. Gilbert non plus n'est pas très heureux en amour, puisqu'il ne peut pas compter sur elle. Pourquoi ne cherche-t-il pas ailleurs? Il est riche, très riche même, et bien de sa personne, il pourrait avoir toutes les filles qu'il voudrait. Il continue à marcher tout en pensant. D'un coup, il voit contre lui une tête d'homme, de vieil homme ridé, sale, édenté, cheveux gris. Il sourit, l'homme lui dit, ah, j'en tiens. Julien ne comprend pas. Quoi? L'homme lui dit, un riche. Julien essaie de se retirer, mais l'homme le maintient bien à la manche. Remport et demande, vous voulez quelque chose? L'homme siffle entre ses doigts. À court, trois hommes, sales et vieux comme lui, très abîmés et en guenille. Celui qui tient Julien dit, j'en ai un. Un homme dit, amenons-le. Et l'on pousse. Julien ne comprend rien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai rien fait. Lâchez-moi. L'homme lui dit, on fait toujours quelque chose. On le pousse dans l'allée d'un vieil immeuble. Où vous m'amenez? Où vous l'amenez? On doit t'amener. Suivent l'allée et lui font descendre les escaliers de la cave. Julien lui dit, vous allez me faire du mal? Il ne répond pas. Il y a panique, il a très peur. Ça dit que si on le tue ici... Au secours, au secours! On lui dit, tu peux crier tant que tu voudras. Personne ne peut t'attendre. Arrivé en bas, on fait suivre un couloir. Julien s'est de se débattre avec ses poings, ses mains. Mais il est bien tenu. Enfin, ils arrivent. On baisse Julien pour le faire asseoir sur une chaise. Puis les mains l'attachent à la chaise. Julien se demande ce qui lui arrive. De lui et il voit en face de lui une table avec des hommes assis en face de lui, trois hommes vieux, sales, des SDF. Celui qui est au milieu lui dit, tu sais pourquoi t'es ici? Julien, qui est entouré de ceux qui l'ont emmené ici, lui dit, non, je ne comprends rien à tout ça, et si vous voulez de l'argent, prenez ma carte et laissez-moi partir. L'homme qui est au centre lui dit, ce n'est pas à ton argent qu'on en veut, mais te juger. Je lui demande, de quoi? L'homme lui répond, d'être riche. Bien lui dit, je suis pour rien. L'homme lui dit, et moi alors? Toi tu es riche, et moi j'ai rien. Tu trouves ça normal? Bien lui dit, non mais, ce n'est pas moi qui l'ai voulu. L'homme lui demande, pourquoi es-tu riche? Répond, parce que c'est comme ça, je suis né dans une famille qui l'était, c'est pas de ma faute. L'homme lui dit, moi non plus, c'est pas de ma faute d'être né pauvre. Et elle demande, pourquoi toutes ces questions? Qu'est-ce que vous allez faire de moi? L'homme lui répond, nous allons vous exécuter si tu me prouves que tu es riche par malhonnêteté. Et elle lui dit, j'ai rien fait de mal, de malhonnête. Elle lui demande, ben pourquoi es-tu riche? Et pourquoi il y a des gens qui sont riches et d'autres n'ont rien? Il réfléchit et lui dit, t'as juste, mais j'y suis pour rien. Elle lui demande, ben pourquoi es-t-on riche? Il lui dit, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres. Elle lui dit, c'est faux, nous sommes tous égaux. Il lui dit, oui, devant la loi. Mais la nature, non. Il y a des grands, des petits, des forts, des intelligents, et d'autres moins. L'homme lui dit, c'est la faute de la société, si les gens ne sont pas égaux. Si on n'est pas égaux devant la loi, oui. Mais naturellement, non. L'homme lui dit, c'est faux, tout le monde naît pareil. L'homme lui dit, bon, tout le monde naît pareil. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres? L'homme lui dit, parce qu'ils sont malhonnêtes. Elle lui dit, pas tous. Vous donnez le même salaire à 10 personnes, il y en a qui y arrivent bien, et il y en a d'autres qui s'en sortent pas. L'homme lui dit, avec le minimum vital, tu crois que l'on peut s'en sortir? Je ne parle pas du minimum vital. Je ne parle pas. Mais de salaire. Ils ont la même chose. Il y en a qui ont 20 000 francs par mois, qui se font des dettes et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, et d'autres qui n'ont que 5 000 francs et qui s'en sortent. Question d'intelligence, d'organisation, de la vie. Des caractères aussi. Si vous avez un caractère à vivre au jour le jour, vous en sortirez moins que ceux qui pensent à l'avenir. L'homme lui dit, alors, d'après vous, si on est pauvre, c'est de notre faute. Bien, je dis, des fois oui, mais bien sûr, des fois, il y a la société et les autres qui vous donnent des ennuis. Économiser, faire bien attention, s'il y a trop d'impôts, on ne peut rien faire, je me dis. Ah, tu trouves qu'il y a la société et les autres. Oui, mais aussi, surtout, c'est son intelligence et ses besoins, ses goûts qui sont innés. L'homme lui dit, alors, si je suis pauvre, c'est de ma faute. Et elle répond, je ne sais pas. L'homme lui demande, et si tu es riche? Et elle lui dit, c'est grâce à mes parents qu'ils ont su bien gérer leurs affaires. Alors, si tu es riche, c'est à cause de tes parents. Et tu trouves normal que la richesse va de père en fils. Et elle lui dit, pourquoi pas? C'est mon héritage et c'est bien que les parents laissent à leurs enfants quelque chose d'eux. L'homme lui dit, ce qui fait que la fortune est héréditaire, va du père au fils, ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui sont riches. Et elle lui dit, non, il peut y avoir de nouveaux riches et les fils de riches peuvent se ruiner. D'ailleurs, un fils de riche est plus faible que le pauvre parce qu'il n'a pas lutté pour vivre. Alors, il prend l'habitude de se laisser vivre et il perd sa fortune. C'est une race de dégénérés, les riches. Bien lui dit, si vous dites ça, c'est que les hommes ne naissent pas égaux. À moins que vous le dites que pour les riches. C'est-à-dire que vous voulez l'égalité des masses quand ça vous change. C'est-à-dire que lorsque ça rentre bien dans votre idéologie. L'homme lui dit, assez, pas d'accusation. C'est moi l'accusateur. Vous êtes accusé, c'est d'être riche et de prendre ce qui revient à tous. Je proteste que vous êtes né dans une famille de riches. Vous devez avoir tous les droits, que tout vous est dû. Il vient lui dit. L'homme lui dit, c'est la même chose. Pour une fois, ce sont les miséreux qui jugent les riches. Ils ont délibéré. Et nous allons savoir, je vais savoir ce qu'on va faire de vous. Bien lui dit, c'est ça là, votre justice, que de juger une personne parce qu'elle est riche? L'homme lui dit, c'est pas de ça. La justice. Et puis, vous trouvez que c'est juste, vous, que vous soyez riche, que vous ayez tout, et que nous n'aurions rien? Julien lui dit, je peux vous donner de l'argent si vous voulez. L'homme lui dit, nous ne demanderions pas. Il se lève, et les deux autres aussi. Il dit, je vais les libérer. Et il s'éloigne. Suivent le long couloir, tournent et disparaissent. Julien dit, ils sont complètement fous, ils n'ont pas le droit de faire ça. Un homme lui dit, si on a le droit de faire ce genre de choses, pour vous voir, pour vous montrer comment nous vivons. Julien lui dit, non bien sûr, m'attaquer. Vous, un dirigeant du pays, mais pas à moi. Moi, je ne suis rien. L'homme lui dit, nous riches sont de ton espèce. Julien soupire. Il se demande comment il va faire pour sortir de cette histoire. Et il a sommeil. Il se dit que s'il avait un portable, il aurait pu appeler au secours. Il voit enfin arriver les trois hommes. Il se dit, tiens, voilà ceux qui jouent au juge pour me condamner. Les trois hommes s'assoivent. Puis celui du milieu se lève et dit, nous avons, en notre âme et conscience, après une longue réflexion, j'avais décidé et que vous ne les aviez pas convaincus. Donc la sentence est la mort. Mais pas le droit. Tu parlais d'égalité devant la loi. Moi, c'est toi, un vrai jugement. Vous n'êtes rien. Et le jugement n'est pas bon. J'ai même pas eu de défenseur. Il dit n'importe quoi et ne sait plus. L'homme lui dit, ça en fait mieux. Nous avons laissé vous défendre tout seul. De toute façon, la sentence a été donnée. Allez, vous serez fusillé demain matin. Amenez le prisonnier dans sa cellule. Il vient crier. Vous n'avez pas le droit. Il essaie de se défendre, de se défaire de ses cordes. Les hommes s'approchent pour le défaire et le mener dans sa cellule. Une fois qu'on défait Julien, il bouge dans tous les sens. Les autres le maintiennent bien. On le pousse, on le maintient dans tous les sens. Quand le cadre s'ouvre, il est jeté dehors. Il tombe à terre. La porte se referme. Il est dans le noir. Il a encore les mains attachées dans le dos. Il crie, au secours, au secours, au secours. Puis, il n'entendait pas. Ça court. Des coups de mitraillette. Au secours, au secours, au secours. Coup, il entend derrière lui. Venez. Il se retourne et voit une dame en robe noire, belle. Elle tient une lampe de poche à la main. Venez. Elle le mène dans un dédale de couloir. De sous-sol. Puis, ouvre une porte, entre. C'est une allée d'immeubles. Il la suit. L'allée est une allée d'immeubles vieux et sales. Ils sortent de l'allée. Ils sont sortis de l'allée. Il fait nuit. La rue est petite, étroite. En face de l'allée, il y a une voiture noire. La rue est sale et déserte. Ils vont vers la voiture. Un chauffeur leur ouvre la portière arrière. Ils s'y engouffrent. Et la voiture démarre. Thank you. Nazamar Noir, demanda Julien. Je vous ramène chez vous? Julien lui demande. Qui êtes-vous? Elle lui répond. Je vous aime. Et votre ami vous est précieux. Vous êtes ami de Gilbert, un vrai ami. Il lui demande, mais qui êtes-vous? Pourquoi me protégez-vous? Elle lui dit, je suis une femme qui est là pour vous protéger. Pourquoi? Ne posez pas tant de questions. Moi, est-ce que je vous en pose? J'accepte ce que vous faites et répare vos erreurs. Il ne faut pas sortir la nuit seule. Vous n'avez pas que des amis. Heureusement, parce que la vie serait monotone et vous n'auriez pas besoin de moi. Elle lui demande, mais pas me dire, pourquoi? Vous protégez Gilbert? Elle lui répond, parce qu'il a besoin d'être protégé. Je vous ramène chez vous? Oui. Vous savez pourquoi j'ai été attaqué ce soir? Elle lui dit, parce que vous êtes l'ami de Gilbert. Et que lorsqu'on est l'ami de Gilbert, on est souvent en danger. Gilbert l'est aussi. C'est comme ça. Et nous aidons l'ami de Gilbert. Vous êtes le seul vrai ami. Nous sommes arrivés. La voiture va s'arrêter devant l'immeuble où il habite. Merci. Elle lui dit, bonne nuit. Et il sort de voiture. Il entre chez lui. La voiture ne part qu'une fois qu'il est rentré chez lui. Lorsqu'il voit Gilbert, il lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Et je me demande qui est cette femme. Gilbert lui dit, moi non plus je ne sais pas qui elle est. Julien lui demande, tu sais pourquoi elle te protège? Non, mais je sens qu'elle me protège. Je la sens. Je la sens près de moi. jour, Maurice reçoit une lettre du maire de Lyon, qui désire faire un musée de la maison des Hautebord. Il lui demande, c'est de présider à la rénovation payée par la municipalité. Maurice en parle à ses bras droits et à Harold. Il dit, il faut accepter, ça nous fera une très belle publicité et en même temps, nous ferons un travail artistique comme la construction d'un musée où notre nom sera inscrit sur la maison. Ça sera très bon pour nous. Maurice lui dit, bien, je vais écrire au maire que son projet nous intéresse et nous discutons du prix. Harold réfléchit et lui dit, ce serait bien, c'est que pour notre image de marque, de faire ce travail gratuitement. Maurice lui dit, oui, mais les frais. Harold lui dit, ça vous coûtera à guère plus cher que de faire de la pub. Il dit, bien, bien d'accord, mais à condition qu'on en parle et qu'on marque sur la maison, rénovée par Franblanc, etc. Harold lui dit, très bien, monsieur. Une demi-heure plus tard, Harold est dans le bureau de Judith et lui dit « Rénover la maison des Hautebord. » Elle lui dit « Il va falloir s'y ouvrir l'œil. Je vais prévenir. » Maurice et le maire des Lyons ont pris rendez-vous pour discuter de la rénovation de cette maison. Le rendez-vous aura lieu dans l'hôtel de ville de Lyon. Maurice va à Lyon en avion privé. Son avion privé va atterrir à l'aéroport de Saint-Olas. De l'aéroport, une voiture le mènera à Lyon. Arrivé à Lyon, il voit cette ville délabrée, morte à cause des guerres entre différents groupes politico-anars et autres. Maurice est mené dans le bureau du maire. On frappe à la porte et on peut entrer. Le maire est debout. C'est un homme petit, gros, cheveux grisonnants, costume marine, il a les 60 ans. Son bureau est une grande pièce qui a un coin salon meublé Louis XV. Lorsque Maurice entre, le maire s'approche de lui et lui dit « Je vous remercie d'être venu. » Maurice lui dit « C'est moi qui vous remercie d'avoir fait appel à notre société pour ce travail que nous aimons et que ça nous honore. » Le maire lui dit « C'est normal, vous êtes les seuls à pouvoir mener à bien cette œuvre. Allons nous asseoir. » Il le met dans un coin du salon. Et le fait asseoir dans un fauteuil. Lui prend celui qui est en face de lui et lui demande « Vous désirez boire quelque chose ?» Maurice lui dit « Oui, merci. » Le maire demande « Un cognac ?»« Oui. » Le maire appuie sur la sonnette qui est sur la table basse. Le maire lui dit « Nous avons cette idée, c'est de faire un musée de la maison des Hauts-Bords parce que ces gens font partie du patrimoine de l'humanité. » Nous voudrions, c'est que ce musée ne ressemble pas à un musée, mais que l'on ait l'impression c'est d'entrer chez eux, qu'ils soient toujours là, pas de vitrines, de plaques, de chaînes, juste un décor de leur vie, avoir leur bibelot, leurs meubles, leurs vêtements. Le jardin sera refait comme il était avant leur départ. Il y aura au sol une salle où on pourra entendre leur voix dite dans l'émission L'écran radiophonique. Rien de plus. Pas de vente de souvenirs de magasins quelconques. Il faut s'y garder le bon goût de ces gens-là. Frappe à la porte. Entrez, c'est le domestique, le maire lui dit. Apportez-nous du cognac. Merci. Domestique se retire. Le maire lui dit, nous avons prévu un budget de... Maurice lui dit, j'ai décidé, c'est de faire gratuitement ce travail. Le maire lui dit, tout travail mérite un salaire. Maurice lui dit, nous demandons alors une plaque disant que c'est nous qui avons exécuté ce travail. Le maire lui dit, très bien. Frappe à la porte. Entrez, entre domestique pour les boissons. Il les sert. Merci. Merci. Et les quitte. Discuter technique, date de début des travaux, remise des clés, sécurité, personnel. Puis le maire l'a invité à déjeuner. Et ils sont allés voir la maison des Hautebords. La maison se trouve en dehors de la ville, en pleine campagne. Elle ne se trouve pas dans la commune de Lyon, mais fait partie du Grand Lyon. Et on peut dire que la maison appartient à la ville de Lyon. Ils y vont avec la voiture du maire. La maison se trouve en rase campagne, au fond d'un grand parc. Plutôt même d'un grand domaine entouré d'un haut mur. On y entre par un portail à double porte en fer qui est à demi rouillé. De voiture pour aller ouvrir le portail. Pour que le portail est ouvert, il entre dans la voiture et la met en route. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.